France Inter.
Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Reconnexion au terrain ou retour des barons cumulards. Un vieux débat de retour à l'Assemblée, le non-cumul des mandats politiques. Les députés Horizon veulent revenir en partie sur cette loi emblématique de la gauche. Explications et réactions dans ce journal. Vous avez été un jour demandeur d'emploi. Il se peut que vos données personnelles soient ce matin dans la nature. Après la méga cyberattaque contre France Travail, que vont-elles devenir ces données ? Un expert nous répond. Dans ce journal aussi, les armées françaises et américaines qui s'entraînent à travailler ensemble au cas où. Passage piéton lumineux, clignotant automatique, des innovations pour la sécurité routière et la toute première pièce de théâtre de Virginie Despentes.
Au micro de Sonia De Villers, dans 20 minutes, c'est aujourd'hui Eric Benzekri, créateur de la série La Fièvre, bientôt sur Canal+.
France Inter.
Depuis 7 ans en France, Alexis, on ne peut plus être député et maire.
Sénateur et président de département, c'est la règle du non-cumul d'un mandat national et local, adopté sous François Hollande, une révolution démocratique, disait le gouvernement à l'époque. Mais depuis, le débat ne s'est pas vraiment éteint. Rupture entre Paris et la réalité des territoires, disent ses contempteurs. Et le sujet revient donc à l'Assemblée aujourd'hui. Proposition de loi du parti Horizon pour ne pas abroger, mais disons assouplir la règle, Luc Chemla.
L'objectif est d'autoriser les parlementaires à occuper une fonction exécutive locale en plus de leur mandat de député ou de sénateur, non pas au poste de maire ou de président d'un conseil départemental ou régional, mais en tant qu'adjoint ou vice-président. On gagnerait en efficacité, explique le porteur du texte, le député Horizon, Henri Alfandari.
Quand vous avez à adresser une politique publique, vous vous souciez du fait de savoir si elle est applicable. Donc on ferait beaucoup plus attention dans notre rédaction à ce que ça soit applicable. Et puis l'autre chose aussi, c'est que vous confrontez aux Français. Et quand vous avez des gens qui sont dans l'incompréhension parce que vous prenez une décision sur un document d'urbanisme, par exemple, si c'est issu de ce qu'on a écrit dans la loi, bah forcément, on ne rédigerait pas forcément la loi de la même manière.
Un moyen également de renforcer l'ancrage local, affirme Henri Alfandari. Un argument peu convaincant pour plusieurs parlementaires, même au sein de la majorité. Élodie Jacquier-Laforge est députée Modem et contre le texte.
Plutôt que de revenir en arrière, par exemple, on pourrait renforcer les relations avec le préfet. Le deuxième point aussi qui pourrait être mis en avant, c'est la participation des parlementaires aux conseils intercommunaux.
Derrière ce plaidoyer, il y a surtout l'attachement à un marqueur de 2017 et le refus d'offrir une victoire à Édouard Philippe.
Mais pas de garantie de succès aujourd'hui dans l'hémicycle. D'ailleurs, la semaine dernière en commission, les députés ont majoritairement rejeté cette proposition Horizon. Autre loi emblématique, celle qui interdit les signes religieux à l'école 20 ans après son adoption. La laïcité est aujourd'hui plus que jamais menacée, selon Gabriel Attal. Le Premier ministre annonce ce matin à l'AFP la création de cellules d'appui pédagogique en cas de contestation d'enseignement par des élèves ou des parents. On va y revenir dans le journal de 8h.
7h33, des noms, des adresses, des numéros de sécu dans la nature.
Et 43 millions de Français potentiellement concernés par cette nouvelle cyberattaque massive qui confirme que l'administration est devenue une cible privilégiée. Cette fois, c'est donc France Travail, l'ex-Pôle emploi, qui est touché, et à travers cet organisme, les demandeurs d'emploi actuels mais aussi passés. Avec quelles conséquences maintenant si les fuites sont confirmées ? Pierre Penalba est spécialiste de cybercriminalité, ancien de la PJ.
Ces données, elles vont servir principalement à faire des tentatives de piratage de comptes, c'est-à-dire vous allez recevoir des courriels liés à justement France Travail, à la NPE, à Pôle Emploi, à tous les organismes qui sont proches de ces structures, et vous allez recevoir des courriels qui sont parfaitement imités, avec aucune faute d'orthographe, et qui vont vous demander principalement, ça sera la plupart du temps des données bancaires pour pouvoir remettre à jour vos comptes, et ça sera dirigé vers tout ce qui est arnaque et escroquerie. Moi, je conseillerais à tous les gens qui ont un compte sur ces organismes qui ont été piratés de faire extrêmement attention dans leur prochaine communication, de ne cliquer sur aucun des liens qui sont envoyés, même si le lien paraît provenir de quelque chose qui a l'air réel, vraiment.
Pierre Penalba, ancien de la PJ, il répondait à Benjamin Fontaine. Un drame hier soir en Seine-Saint-Denis lors d'une course-poursuite avec la police. Un jeune homme de 19 ans est mort à Aubervilliers dans la collision de son scooter avec une voiture des forces de l'ordre. Selon la version policière, le deux-roues a commis un refus d'obtempérer et lors de sa fuite, il a percuté un deuxième véhicule qui arrivait en face avec gyrophares allumés. Deux enquêtes sont ouvertes, l'une donc pour refus d'obtempérer et l'autre pour éclaircir les circonstances de cette collision confiée à l'IGPN. À Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, ce sont deux surveillants de prison qui font eux l'objet d'une enquête pour violence sur un détenu. Les faits remontent au 28 janvier. Ils ont été filmés depuis la fenêtre d'une cellule et c'est assez rare. Vous avez pu visionner ces images, Morgane Clarefait.
Dans cette courte vidéo, on voit deux agents s'avancer vers un détenu seul dans la cour de promenade. L'homme en jogging rouge leur fait face avant de recevoir plusieurs coups à la tête, des coups de pied aussi, alors qu'il est recroquevillé à terre. Des images diffusées par une proche d'un détenu, c'est très rare et décisif pour Charline Becker, responsable dans le sud-est de l'Observatoire international des prisons.
En fait, elle nous a envoyé tout ça à titre de preuve, comme quoi il y avait des violences à Villefranche. Ça permet aujourd'hui d'attester des fois sans l'ombre d'un doute de certains faits de violence. On sait que les téléphones portables circulent en prison. Par contre, ensuite, diffuser la vidéo, c'est s'exposer peut-être à plus de représailles des surveillants si jamais les vidéos sortent. La vidéo, c'est la preuve reine. Ce qui signifie, à contrario, que quand des personnes détenues se font frapper en dehors de l'angle des caméras, ça va être beaucoup plus difficile de poursuivre et de faire condamner les surveillants. Donc, c'est un peu à double tranchant.
Les deux surveillants mis en cause sont suspendus à titre préventif, précise l'administration pénitentiaire, jusqu'à fin mars pour l'un, mi-avril pour l'autre. Sur la centaine de signalements reçus chaque année par l'OIP, seuls quelques-uns débouchent sur des procédures judiciaires, faute de preuves. Il faut généralement des certificats médicaux ou des dénonciations par des surveillants eux-mêmes, comme ça a été le cas en 2022 avec la condamnation d'un gardien, lui aussi à Villefranche-sur-Saône.
293 voix contre 22. Le Sénat approuve à son tour très largement l'accord de sécurité conclu entre la France et l'Ukraine. Emmanuel Macron y reviendra ce soir à 20h sur TF1 et France 2. Pendant que l'armée française, elle, teste avec ses alliés, notamment américains, la capacité à travailler ensemble en cas de coalition occidentale un jour sur le terrain. C'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire l'interopérabilité. Un exercice est en cours dans le désert californien. Éric Biégala sur place pour Inter.
Désert Mojave, en Californie, c'est là que les armées occidentales s'entraînent à fonctionner ensemble. Un drone de reconnaissance français est sur le point d'être lancé. Le capitaine Laure du 61e régiment d'artillerie.
Là, il va se rendre sur sa zone de recherche pour pouvoir détecter un ennemi au sol. On transmettra ses coordonnées rapidement afin de le neutraliser via un tir allié ou via un tir français. On s'entraîne pour que ça puisse être n'importe lequel.
Raccourcir la boucle qui va de l'acquisition du renseignement tactique, là où se trouve l'ennemi, jusqu'à l'ordre de tir pour neutraliser cet ennemi, et ce par un système d'armes ou un autre, quel que soit le pays qui l'emploie, c'est tout l'enjeu de cette manœuvre Capstone 4, et ça marche plutôt bien, selon le colonel Zachary Miller, en charge de la modernisation de l'armée américaine.
L'année dernière, lors d'expérimentations similaires, nous avons souvent dû faire intervenir des personnels dans les processus, par exemple pour transférer des données d'un système à l'autre. Et là, ce qu'on a réussi à faire, notamment avec les Français, c'est d'éviter toute intervention humaine pour que les informations qui étaient générées par un système ou un autre puissent passer numériquement dans tout le réseau et arriver à leur terme.
Une interopérabilité des systèmes devenue indispensable, l'armée américaine elle-même ne conçoit plus de partir au combat autrement qu'au sein d'une coalition.
Éric Biégala, envoyé spécial d'Inter en Californie. Aux Pays-Bas, Geert Wilders doit renoncer. Le leader d'extrême droite ne sera pas le premier ministre du futur gouvernement néerlandais, faute de soutien des autres partis. Et malgré sa victoire lors des législatives il y a 4 mois, les négociations n'ont pas abouti. La justice allemande rouvre le douloureux dossier des crimes de la Stasi pendant la guerre froide. Un ancien agent de la police politique de l'ex-RDA comparaît à partir d'aujourd'hui à Berlin pour le meurtre d'un Polonais qui tentait de fuir vers l'Ouest en 1974. L'accusé a aujourd'hui 80 ans. Il aurait fait partie d'un complot visant à faire croire à l'époque aux fuyards qu'il pouvait partir avant de l'abattre au poste frontière d'une balle dans le dos.
Il est 7h39, encore plus de 3000 morts de la route en France chaque année.
Et si la technologie nous aidait à réduire ce bilan, c'est l'idée du concours organisé par la sécurité routière qui vient de remettre ses prix de l'innovation aux idées les plus originales, portées par des entrepreneurs ou même des étudiants. Voici quelques lauréats au micro de Faustine Calmel.
Vous êtes en voiture, les enfants à l'arrière, leur ours en peluche leur raconte une histoire.
Il était une fois, ou deux, ou trois.
Mais il contient aussi un système embarqué. Si vous dépassez la vitesse autorisée, le récit s'arrête.
De 4 ans, son cadet.
Une alarme prévient le parent qui a trop appuyé sur l'accélérateur. Aminata Khadija et Ala, étudiantes à Polytech Orléans, ont conçu ce projet.
C'est comme une deuxième alarme sonore.
Parce qu'il y a déjà la première alarme qui va se déclencher, mais également l'enfant pourra prévenir son parent pour lui dire de ne pas dépasser la vitesse puisqu'il ne veut pas que son histoire s'interrompe.
Prévenir, c'est aussi le maître mot du casque de vélo imaginé par Maxime Guillot, cofondateur de Gamelle Helmet.
C'est un casque qui fonctionne avec un capteur intégré pour enclencher de lui-même un feu stop quand vous allez ralentir un feu rouge ou un passage piéton, par exemple.
Et déclencher le clignotant d'un simple mouvement de tête.
En fin de compte, les mains restent sur le guidon, on reste concentré sur sa conduite et on n'a pas besoin d'une télécommande additionnelle qu'on pourrait oublier, par exemple, sur un vélo de location ou sur une trottinette.
Et puis, les usagers de la route très vulnérables, ce sont aussi les piétons, 440 morts l'an dernier. L'entreprise Colas a conçu un système pour illuminer les passages piétons quand quelqu'un traverse. Les voitures sont alors 94 sur 100 à respecter leur priorité contre 67 pour un passage classique.
Une page se tourne chez Mediapart, comme il l'avait annoncé en primeur sur Inter. Edoui Plenel quitte aujourd'hui ses fonctions à la tête du site d'investigation. Et on connaît ce matin le nom de celle qui le remplace à la présidence, Karine Fouteau, journaliste à Mediapart depuis sa fondation. Quand une figure de la littérature contemporaine s'essaie au théâtre, partons pour Lille où Virginie Despentes présente sa toute première mise en scène. Woke, c'est le titre de cette pièce, coécrite avec trois autres auteurs, pour décrypter ce concept devenu si polémique. Et c'est réussi, Stéphane Capron.
On aurait pu s'attendre à un spectacle clivant. Eh bien, c'est tout le contraire. Virginie Despentes met de la distance. Elle ose la comédie pour dresser le portrait d'un mouvement souvent incompris qu'elle résume ainsi.
Être de gauche, penser que le capitalisme peut être un système qui est dépassable, penser que le racisme c'est mal, penser que être gay c'est bien. C'est vrai que pour l'instant c'est surtout défini par un discours qui nous condamne, quoi.
Virginie Despentes s'est entourée d'une sacrée troupe d'artistes. Il y a la rappeuse Kazé, la drag queen Soa de Muse et de grandes comédiennes dont la franco-ivoirienne Mata Gabin qui humanise le wokisme.
On devrait tous être des wok parce que wok c'est quoi? C'est avoir envie d'être bien mais avoir envie que l'autre aussi soit bien. C'est un mot d'espérance, c'est un mot d'humanité, c'est-à-dire avoir la compassion et accompagner et aller vers ce qui nous attire et ce qui nous plaît.
Virginie Despentes a donc pris goût au théâtre, mais que ses fans se rassurent, elle n'abandonne pas l'écriture.
J'aime aussi être chez moi et parler à personne et me lever à l'heure que je veux. C'est du travail quand même cette histoire. Là, j'ai pas chômé. Donc ouais, non, j'aime aussi être chez moi, avoir à mon rythme. Mais j'aime cette alternance. Je trouve que cet aller-retour est génial.
Ce premier pas est convaincant, même si le spectacle est parfois un peu inégal et long. Mais il sait être drôle, inventif, mélancolique et tendre.
Woke, mise en scène de Virginie Despentes jusqu'à samedi au Théâtre du Nord à Lille.
Merci Alexis Morel. À suivre l'édito politique, l'édito éco, l'interview de Sonia De Villers.